Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux. Bravo. Je remercie tout d'abord en tant qu'éditeur, c'est toujours un privilège d'être reçu dans ces merveilleux salons. Je remercie donc Denis Mola et toute son équipe de libraires et puis ceux qui travaillent dans les bureaux pour leur accueil. Avant de vous laisser avec Antoine, je voudrais dire un petit mot. La préface de ce livre a été signée par Jean-François Mattei, à qui nous pensons ce soir, qui nous a quittés. Et je salue ici son épouse. Voilà. Merci. Je voudrais également avoir une pensée pour Stéphane Lartigue, qui est journaliste à Sud-Ouest et qui aurait bien voulu être là ce soir, et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Et puis, je vais maintenant vous présenter les protagonistes de cette soirée. Antoine Meynier sera interrogé par Franck Omer, journaliste. Les voici, je vous souhaite de passer un agréable moment avec eux et à la suite des questions de Franck, vous pourrez bien entendu poser les questions à l'auteur. Bonne soirée.
Bonsoir, c'est moi qui dois commencer à parler. C'est toujours très, très facile. Alors, la différence entre le rêve et la réalité, un ami m'a dit un jour que c'était la date. Et la date, c'est aujourd'hui, c'est le 6 mai 2014. Cette date, c'est une date importante, c'est ici et maintenant, chez le docteur Mola. J'aime bien dire que c'est le docteur Mola, parce que Denis Mola est un grand libraire, mais aussi un grand docteur, parce qu'il est docteur en médecine générale. Cette histoire ici, je ne pensais pas avoir à raconter que j'allais avoir un enfant de plus à mon âge. Et en fait, c'est tout à fait la conception d'un enfant. Parce que ça fait 9 mois que j'ai commencé à écrire des petites histoires à Marsali, dans ma maison de famille. Et j'écrivais le matin en me levant, j'avais repris des Moleskine où j'avais marqué des anecdotes. Et Sophie, sur la terrasse, me disait que c'était des histoires qui étaient belles et qu'il fallait que je continue à écrire. Donc j'ai écrit. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Émilie Saliège, qui est une de mes amies, qui créait une boîte qui s'appelait Charlie Buzz et qui m'a proposé de faire un blog. Donc j'ai fait ce blog qui s'appelait Le Docteur Maison. Et au fur et à mesure, j'ai vu que les lecteurs étaient intéressés par ce que j'écrivais. Et surtout moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai trouvé enfin un bon psychanalyste. Et donc c'était ma psychanalyse à moi. Donc je me suis permis de libérer ma palette d'émotions, de libérer mes pleurs, mes rires. C'est pour ça que j'ai pu écrire l'histoire de mon copain Patrice, de plusieurs histoires très tristes, mais des histoires très gaies aussi, et des histoires notamment sur la dérision, sur ma maladie quand je suis hospitalisé, où on peut rire beaucoup, et surtout ça m'a beaucoup appris en étant de l'autre côté du drap en tant que malade. Et puis après, il y a une phrase que j'adore, qui s'appelle, que Paul Éluard disait, qui dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Et ce rendez-vous, ça a été avec Jean-François Mattei. Je suis très ému en parlant à lui, en pensant à lui. Jean-François Mattei, c'était un philosophe, un savant, c'était un sage, vous allez dire, comment a-t-il pu faire une préface à moi qui suis médecin, rigolo, atypique, rugbyman. Et en fait, c'est le hasard de la vie qui fait qu'il a fait une conférence un jour où j'ai assisté. Et en assistant à cette conférence, j'étais peut-être besoin de sagesse, sûrement. J'avais beaucoup besoin. Et j'avais aussi besoin de me cultiver, d'avoir un perfectionnement intellectuel. Et du coup, j'ai discuté avec lui pendant le repas. Et comme je suis très bavard, je lui ai donné quelques conseils médicaux. J'ai osé lui donner quelques conseils médicaux. Et il m'a rappelé 6 mois plus tard en me disant qu'ils avaient écouté, que se sentait très bien. Et il m'a dit, j'ai lu votre blog, si un jour vous faites un livre, je serais ravi de faire la préface. Et il m'a fait donc cette préface. Ce qui est aujourd'hui triste, c'est que c'était ses derniers écrits, ce qui me flatte aussi, parce que c'était les derniers écrits de Jean-François Mattei. Alors, dans le monde du sport, on ne fait pas de minute de silence. Habituellement, on se lève et on applaudit pendant un court instant, et je vous demande de le faire. Merci. Alors, on va pas être triste, parce que pour moi, la mort, comme dit Jean-François Mattei, ça fait partie de la vie, c'est un passage. On est là aussi pour rire, pour s'amuser, c'est la vie de tous les jours. Je vais juste finir en vous disant merci. Alors, je ne peux pas remercier tout le monde, je suis ravi que vous soyez si nombreux. Je ne peux pas remercier tout le monde. Simplement, je voudrais dire merci à mes patients, car mes patients, c'est ce qui m'apporte de l'amour tous les matins et qui me font dire que je fais le plus beau métier du monde. Alors, merci à tous.
Bonsoir, docteur.
Bonsoir, Franck.
Bonsoir, Antoine. Alors, en fait, on l'avait un peu pressenti. On s'était dit qu'il y aurait beaucoup d'émotions pendant cette intervention. Ça a commencé. Et puis, j'avais préparé un petit peu le début, comme un journaliste essaye de le faire, en étant un peu organisé. Et puis, en fait, on a discuté un petit peu tout à l'heure en coulisses, avant de préparer cette intervention. Puis, je vais changer un peu l'ouverture de cette conférence, si tu me le permets. Tu me disais que tu, et on le sait, tu avais été un étudiant, un élève, un étudiant brillant en médecine. Pourtant, je crois savoir que tu n'as pas eu tous tes examens. Il y en a eu un, notamment, que tu as eu du mal à avoir.
Cet homme est une... C'est vraiment un bon copain. J'ai osé lui dire tout à l'heure que j'avais été reçu à tous mes examens. Il n'y en avait qu'un seul où j'avais été collé. C'était en sexologie. Et cet endo, il lui demande la question. J'ai essayé de me rattraper après, mais bon.
Oui. Après, tu as réussi. Bon. Tu es rugbyman aussi. Tu l'as été. Tu es passionné par le rugby. Tu as joué à un haut niveau, un très haut niveau. Tu sais, pour un match de rugby, avant un match de rugby, souvent il y a une peur, on peut même être terrassé par la peur. Quand tu t'es retrouvé devant cette première feuille blanche, quel a été ton sentiment ?
J'ai pensé à ma note de français au bac et je me suis dit que j'avais eu 4 et que c'était vraiment pas, je ne devais pas être un bon écrivain. Donc je me suis dit, il faut que je fasse sûrement encore de la médecine et pas écrivain. Et puis... grâce à Sophie, grâce à mes lecteurs à suite sur le blog, je me suis dit, en fait, je me suis bien compliqué la vie en écrivant une phrase, un verbe, un complément. On arrive à faire des phrases qui tiennent la route. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais continuer.
Alors, c'est un début, mais on sait aussi, parce que derrière tout ça, il y a de la profondeur, Antoine. On sait aussi qu'écrire, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est aussi mettre en ordre ses obsessions. Tu as quelques obsessions, Antoine ?
Oui, sûrement, oui. Je fume, je prends du café, je
et
cours tout
de
le temps.
Ça, en dehors de ça, chaque jour, après une journée de travail, tu as une journée bien remplie où tu ramènes des belles histoires et des histoires plus compliquées. C'était peut-être aussi un moyen d'exprimer tout ça. Écrire, c'était le dire, partager.
C'est tout à fait ça. En fait, je me suis rendu compte en écrivant que j'avais des sentiments, des émotions que j'avais gardé en moi, que je n'avais jamais pu expulser. Je pense bien sûr en premier lieu à deux cas précis qui sont tristes, mais qui étaient la mort de mon meilleur copain, de Patrice, et la petite fille Agathe, dont je parle dans le livre. Et je me suis aperçu en fait que je n'étais pas arrivé à pleurer. Je n'avais pas pleuré quand il leur est arrivé leur drame. Et en écrivant, le fait d'écrire, ça me faisait pleurer et je me sentais bien après. Ça m'a fait du bien. Et puis après, je me suis dit, bon, je ne fais pas que pleurer, je fais rire. Donc, j'ai essayé de me rappeler. Et en fait, j'avais besoin de ça à ce moment précis. Ik et nunc, quand je dis c'est ik et nunc, pour moi, c'est ici et maintenant. J'avais besoin de profiter de l'instant présent.
Alors, pour ceux qui n'ont pas encore le livre, mais qui pourront l'acheter à la fin de cette conférence, 154 €, je crois. c'est pas ça. Ik et nunc, en fait, c'est en première page du livre. Ici et maintenant, c'est aussi être heureux ici et maintenant. Et ça
c'est
s'adresse ça. À tout le monde.
Voilà, c'est de plus se poser des questions, d'aller toujours devancer le bonheur. Je pense qu'il faut profiter de l'instant qu'on a au moment où on l'a. Et de vivre carpe diem. Je crois que c'était une bonne philosophie de vie que je n'avais sûrement pas avant.
Alors écrire, c'est aussi quelque chose d'assez physique. Ce n'est pas un match de rugby, mais c'est quand même assez physique. Dans quelles conditions étais-tu ? Comment as-tu fait pour écrire ? Est-ce que tu t'es mis à écrire la nuit, le matin, le soir, après non. Des longues journées, après des soirées
arrosées ? Non, c'était le matin. Le matin, je me levais le matin de bonne heure, et un peu plus tôt que d'habitude, c'était très tôt donc. Et donc je me levais, je me mettais sur l'ordi, et je pensais une histoire, et je la tapais. Et je l'envoyais ensuite à Émilie de Charlie Buzz. Et à ce moment-là, elle corrigeait toutes les fautes d'orthographe que je fais. J'ai qu'une hantise en signant des signatures. Tout à l'heure, c'est de faire des fautes d'orthographe sur tous les mots. Parce que là, je suis paumé. Là, j'ai peur. Heureusement qu'habitude, je demande. Mais là, j'ai peur. Je n'ai pas la correction.
D'un autre côté, sur les ordonnances, on ne peut pas voir les fautes d'orthographe.
Non, parce que j'écris très mal.
C'est assez compliqué. Est-ce que c'était prémédité ? Est-ce que tu avais pris des notes au fur et à mesure toutes ces années ?
Oui. J'avais pris des notes sur ce qu'on appelle des moleskines. J'avais fait des petites moleskines où j'avais marqué plein de notes, plein d'anecdotes qui me faisaient penser à à ce que j'allais faire. Je ne pensais pas que j'allais écrire un livre du tout. Jamais j'ai pensé à ça. Je pensais que j'étais absolument incapable. Et j'étais juste comme ça. Et ça m'a rappelé, ce n'était pas des notes développées, mais je disais tel cas, des choses rigolotes. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses rigolotes dans mes histoires. Il n'y a pas que des choses tristes, heureusement.
Alors justement, dans les histoires, alors je sais pas, c'était peut-être pas drôle pour la personne, mais décidément, c'est vrai qu'avec la gynécologie, t'as un problème.
Ouais, donc la sexologie, la gynécologie. En fait, la gynécologie, c'est une des premières histoires parce que c'est une de mes premières patientes. C'était que je n'avais jamais fait de gynécologie en tant que dans ma période d'étudiant. J'en fais toujours pas, hein, rassurez-vous. Donc, et en fait, comme je remplaçais un médecin, le docteur Cossarieux, mon maître de la médecine générale, et la dame m'a dit, voilà, il faut m'examiner, parce que le docteur Cossarieux m'examine et il me met cette lotion-là, et vous verrez, ça, c'est parce que j'ai une maladie chronique, ça va, elle m'avait dit des initiales, je l'ai mis dans le livre, MVDRP, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et donc, j'ai accompli mon devoir médical, c'est-à-dire que j'ai fait un examen gynécologie, le premier que je faisais de ma vie, en fait, alors que j'étais installé en tant que remplaçant. Et en fait, je me suis trompé dans tous les sens. Je me suis trompé dans... Au lieu de mettre spéculum dans ce sens-là, j'ai mis dans le sens inverse. Et au lieu de mettre une lotion aqueuse, j'ai mis une lotion alcoolisée.
Mais ce qui importe, c'est le résultat.
Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette dame était retournée voir le médecin que je remplaçais, le titulaire, et qui lui a dit, ne changez pas de remplaçant. Ce mec-là, il est génial. Il a réussi en une fois à soigner ce que vous n'aviez pas réussi en 30 ans. Et donc voilà, et du coup, j'ai pu faire ce que j'avais à faire. Voilà.
Alors pour ceux qui n'ont pas encore le livre, je le montre, et pour ceux qui l'ont, en fait, un livre, c'est évidemment la couverture, c'est ce que l'on voit en premier. C'est jamais innocent avec l'éditeur. L'auteur choisit cette photo, cette image, et sur cette couverture, il y a énormément de symboles, Antoine. J'aimerais que tu nous en parles.
Oui, d'abord pour la photo, il faut remercier Elliot, qui est mon petit photographe chéri. Il m'a fait faire 120 fois la photo, j'avais des crampes à la fin. Donc oui, dans les symboles de cette photo, il y a... Alors ma fausse modestie fait que je suis de dos, mais on me reconnaît. Bien qu'il m'ait rajouté des cheveux par derrière, il a fait un trucage avec Photoshop. Je vous préviens, j'ai une calvitie. Ensuite, il y a le ballon de rugby, qui est le ballon de rugby du Stade Toulousain. Et donc il y a le ballon de rugby avec le Stade Toulousain parce que c'est... Non, non, j'ai Toulouse dans mon cœur. Donc le ballon de rugby, parce que le rugby fait vraiment partie de ma vie. Et ensuite, après, il y a mon autre passion aussi, évidemment, qui est la médecine et le stéthoscope que j'ai mis derrière. Et puis les tennis, parce que d'habitude j'en ai en tennis. Aujourd'hui, je ne les ai pas mis parce que je suis toujours en tennis depuis que j'ai été opéré. Aujourd'hui, j'ai mis des chaussures de ville et je ne vous cache pas que j'ai très très mal aux pieds et que je vais demander plus tard qu'on aille me les chercher dans pas longtemps.
Et alors, toujours sur cette couverture, Antoine,
il y a la maison.
Il y a le titre. Alors, il y a une maison derrière.
Oui. Alors, la maison, c'est ma maison de famille à laquelle nous sommes tous très attachés. C'est la maison de mes parents au Cap Ferret, qu'on appelle Marsali.
Et puis, il y a un titre, Docteur Maison. Donc ça, c'est pareil, c'est pas innocent.
Non. Ça, c'était quand je suis sorti de la clinique des Grands Chênes après mon accident en passant à travers un plancher où je me suis cassé la jambe et le genou. Je suis allé directement de la clinique des Grands Chênes à mon cabinet. Et à ce moment-là, j'avais des tennis parce que j'avais mal aux pieds. Et on m'avait donné une canne. Et quand je suis arrivé, mes associés adorés m'ont dit « Tiens, c'est Dr Ross qui arrive ». Donc, la similitude me plaisait, mais quand même, j'ai préféré m'appeler Dr Maison pour un peu franchiser la chose.
Tu évoques une histoire qui est une histoire douloureuse, cette aventure, ce moment de ta vie où tu t'es blessé. Et en même temps, c'était important, enfin, je crois, tu le racontes dans le livre, ça t'a permis de te mettre dans la situation du malade, du oui. Blessé, de la victime. Et ton rôle de médecin, à ce moment-là, tu l'as peut-être vu autrement.
C'est ça.
C'est-à-dire tous les patients.
Oui, j'ai tous mes patients. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je vous faisais hospitaliser ou que je vous envoyais chez un spécialiste, j'avais l'impression que c'était une partie de plaisir pour moi, mais ce n'était sûrement pas pour vous, parce que j'ai vécu ça de l'autre côté du drap, et je me suis aperçu que c'était très difficile. Très difficile des petits quotidiens de tous les jours, enfin de le réveil tôt le matin alors que vous avez envie de dormir, que vous n'avez pas dormi de la nuit, qu'il est 6h du matin, que c'est à ce moment-là qu'on vous réveille pour vous prendre la température, la prise de sang, le charbon, chariot que vous, le petit déjeuner au lit qui est pas pratique quand vous avez la jambe cassée, se lever, je donne des essais dans la toilette qui sont vraiment très désagréables quand on est hospitalisé, on doit être en train de se faire sa toilette. Tout ça, ça m'a beaucoup marqué et ça m'a beaucoup fait rire aussi ensuite. Et pour ça que je l'ai écrit en riant.
Ça veut dire que tu as changé ton comportement ensuite?
Je pense que je ne fais pas hospitaliser aussi facilement qu'avant et que j'explique aux gens, je vais essayer de faire très court, je vais essayer de faire au mieux, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible, essayer de vous faire entrer, mais devez vite sortir aussi.
Alors un mot justement sur les consultations. Les consultations, tes patients adorent venir te voir, même s'ils sont malades généralement. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ne passent pas assez de temps avec toi, qu'ils aimeraient passer plus de temps avec toi, profiter de ta présence, profiter de ta bonne humeur.
Oui. Ça, c'est vrai. C'est vraiment mon
sans compter ceux qui rentrent pendant que tu es en train de...
Oui, il y en a qui rentrent, la téléphone, le portable, ouais. Je sais. J'essaye de faire le mieux. Et je vois qu'il y a Fabrice Lagda qui est là, et qui est un grand médecin de l'Institut Bergonier, et qui a été un révélateur pour moi, qui est Monsieur Burnout à Bordeaux, qui a fait quelque chose. Et un jour, à une conférence, et je n'ai pas du tout prévu de parler de ça, mais puisque je t'aperçois, je le dis, je peux dire qu'il m'a sauvé la mise, cet homme. Un jour, il m'a dit que j'étais en train de faire un burn-out, que je travaillais trop, que j'étais trop dispersé, que j'allais à droite et à gauche, que j'avais mon portable. Je ne suis pas guéri, rassure-toi, je vais revenir. Mais il m'a expliqué ce que c'était que la mérule psychologique, c'est-à-dire que tout est construit comme ça et qu'on a l'impression que tout va à peu près bien et puis qu'un jour le mur s'effondre, et c'était à peu près ça. Et je m'aperçois que je courais toujours après le temps, que tout ça. Il m'a appris à essayer de moins répondre à mon portable, d'essayer de prendre des samedis un peu plus, essayer de prendre plus de temps, essayer de surtout mieux m'organiser. Alors c'est vrai que je vais vite, mais je vais vite pour deux raisons. Alors je ne dirais pas que j'ai un bon diagnostic, mais j'ai quelquefois du flair, donc ça va vite. Et deuxièmement, surtout ensuite, je pense que j'ai tellement peur de gêner, que les personnes attendent trop, que ça me gêne que les gens attendent et ça me dérange. Et en fait, je suis bête parce que je... Mais j'ai évolué grâce à Fabrice aussi. Maintenant, je fais... Alors, je ne vais pas le dire trop fort, sinon vous allez tous vouloir la voir, mes patients. Je fais ce qu'on appelle les derniers rendez-vous, c'est-à-dire que j'essaye de bloquer le dernier rendez-vous où je sais que je sais prendre du temps quand il faut.
Il y a 15 personnes à ce moment-là pour le dernier rendez-vous.
Et donc, je vais essayer, voilà, de... J'essaye de faire mieux, mais bon. Après, j'ai des associés aussi qui me secondent et qui m'aident beaucoup aussi.
Alors je vais citer le livre, tu dis « Tous mes patients deviennent souvent mes amis sont souvent mes patients ». Est-ce que c'est difficile de soigner ses amis?
Alors c'est difficile de soigner ses amis, mais en fait tous mes patients sont presque devenus des amis, donc c'est très difficile pour moi tout ça. Mais c'est vrai, difficile en tout cas de soigner, quand je dis les amis très très proches ou la famille, c'est très dur. Parce qu'on n'est pas du tout objectif, et soit on pense que c'est rien du tout alors que ça peut être grave, ou alors on pense qu'une angine ça va être une catastrophe et ça va être dramatique. Donc je ne suis pas objectif, c'est pour ça que mais bon, pour mes amis, j'essaye de faire abstraction de ça et j'essaye de le faire au mieux, mais ce n'est pas évident. C'est
tu
pas
veux bien, évident. On va faire un petit test. Est-ce qu'il y a des patients d'Antoine dans la salle? Est-ce que vous pouvez la main s'il vous plaît? Est-ce que parmi ces patients, certains ont son numéro de portable? Voilà, c'est ça. Donc en effet, ça sonne beaucoup, évidemment. Alors, je voudrais qu'on revienne peut-être sur un point du livre. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, vous comprendrez ensuite très vite, mais tu vas nous donner un éclairage. Moi, j'entends souvent parler dans ce livre, j'ai souvent lu quelques phrases qui font référence à l'Avardac, et j'ai l'impression que tu as perdu quelque chose à l'Avardac.
Ce n'est pas un ami, ce Franck, ce n'est pas possible. Je croyais que c'était mon meilleur ami, là, aujourd'hui, et non. En fait, un jour à l'Avardac, c'était à côté, dans le Lot-et-Garonne, et un jour, il y a un grand deuxième ligne qui m'a gentiment tapé dedans à la place du ballon, et donc j'ai perdu certaines dents de devant qui, quelquefois, ont de la difficulté à rester encore en place.
Bon, mais tu sais, toi qui l'évoques dans le livre.
Oui, j'en parle dans le livre, voilà.
Bon, je te cite toujours, Antoine, et là, c'est évidemment, il y a des moments extrêmement drôles et puis des moments extrêmement lourds dans ton quotidien, évidemment, et dans le quotidien des patients. Et tu dis, nous ne sommes pas tous égaux devant la maladie.
Oui, je pense vraiment. C'est-à-dire que, honnêtement, c'est un but de mon rôle de médecin, d'essayer de vous rendre tous égaux quand vous êtes malade devant moi. C'est-à-dire que prendre un rendez-vous en urgence pour un IRM ou pour une radio, je ferai aussi bien pour un ami que pour un patient que pour la famille. J'essaye, c'est là où je dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, et je ne pense pas que Fabrice ne me dira pas le contraire, c'est pour avoir une radio, pour avoir un IRM, pour avoir devant ça on a beaucoup de temps, beaucoup de difficultés, il faut vraiment que le médecin généraliste. Et d'autre part, on n'est pas égaux aussi devant la maladie. J'ai un exemple dans malheureux où je pense que la force, le caractère, la puissance de la personnalité peut arriver à guérir quelquefois, devant les circonstances de la vie aussi, et que quelquefois, il y a des gens qui disparaissent plus vite parce qu'ils ont moins de force, moins de caractère, moins d'entourage familial, qui sont plus seuls. Je raconte l'histoire d'une dame qui a eu une maladie dramatique, qui normalement était condamnée et qui était élevée seule son enfant, et qui, alors que le pronostic était catastrophique et certain d'être mortel, vit toujours et va très bien, alors que la même dame qui était dans une atmosphère différente, elle est disparue en 6 mois alors que c'était la même maladie. Je pense que si on veut gagner, si on veut se battre, je pense qu'on peut guérir tous. C'est une question de force, de mentalité, et je crois que c'est le rôle du médecin à influencer cette force. Voilà.
Alors justement, toutes ces histoires, elles sont très émouvantes, très touchantes. C'est du concret, c'est du réel, évidemment. Ce sont des personnes que tu côtoies tous les jours ou très souvent. Est-ce que tu as toujours reçu un accueil positif lorsque tu as exprimé le vœu de publier d'abord sur ton blog, puis dans ce livre, ces histoires ?
En général, oui. Enfin, les auteurs de mon livre sont la plupart du temps, enfin, ont été au courant et donc ils étaient d'accord. Les lecteurs du blog m'ont manifesté ça dans une quantité énorme, donc puisqu'ils lisaient, qu'ils redemandaient tous les jours. Je suppose que il peut y avoir des jaloux entre guillemets parce que on parle de moi et ça peut rendre jaloux, et je fais ça pas du tout par orgueil. J'ai fait quelque chose qui me faisait plaisir et j'avais envie en plus de faire un don ensuite à la Ligue contre le cancer de Gironde, et c'était en même temps, j'avais envie de me battre pour ça, j'avais besoin d'avoir un but, et ça m'a fait. Donc je sais que je ferai des jaloux, je sais qu'il y aura sûrement des gens qui vont dire que j'ai été médiatisé, mais les gens qui me connaissent,
tu parles de confrères,
oui, de confrères sûrement, mais les gens qui me connaissent savent que je suis de ce côté-là, je pense que je suis quelqu'un de propre et de bien, donc il n'y aura pas de souci.
Et du côté de tes patients, tu n'as rencontré aucun refus ?
Aucun, si, j'ai un cas, j'ai vu la réticence et je ne l'ai pas fait, après il m'a permis de le faire, c'était un monsieur qui avait pas une pathologie grave ni rien, mais c'était une très belle histoire à mon sens, mais comme il était encore très touché de sa guérison, parce qu'il avait guéri, je ne sais pas, il a pas senti, donc il m'avait demandé de lui montrer, etc. Et donc j'ai préféré ne pas le faire. Mais à part lui, tout le monde était tout à fait d'accord quand je l'ai prévenu.
Je vais encore te citer, Antoine. Tu dis, j'aime le printemps car les femmes sont belles, les rhumes diminuent, les gastro aussi.
Oui.
C'est le printemps en ce moment, Antoine.
Oui.
Est-ce qu'un médecin qui a ton expérience peut encore être troublé lors d'une consultation ?
Alors, je suis très souvent troublé. Tu parles troublé dans quel sens ?
C'est à toi de voir. C'est toi qui décides, Antoine.
Si on remonte à mes premières analyses, à mes premières études, oui. Non, je fais vraiment une barrière. Je pense que je suis très proche de mes patients. C'est très, très proche. Tout le monde sait que je tutoie beaucoup et que je suis très proche de mes patients. Mais j'ai, une éthique. Et donc, je pense que je peux être troublé par le charme de quelqu'un, mais qui peut être aussi bien un professeur de philosophie qu'un malade, qu'une belle femme, qu'un enfant qui peut me toucher, peut me troubler, peut m'émouvoir, et je peux verser une larme facilement. Je pleure beaucoup. Je ris, mais je pleure beaucoup.
Et tu le dis justement, tu dis « tout n'est pas rose dans la vie d'un médecin. Il y a des moments où la souffrance des patients m'imprègne. » C'est-à-dire que le soir, quand tu rentres à la maison, évidemment, tu ne peux pas rentrer, poser tes affaires et oublier ta journée de travail.
C'est dur. Honnêtement, c'est vraiment dur. Quelquefois, j'ai envie de faire le tour du quartier pour pouvoir rentrer chez moi. Mais comme vous avez remarqué, j'ai perdu 6 kilos. J'ai trouvé une solution. Je fais du vélo le soir en rentrant et ça me fait beaucoup de bien. Donc, je me défoule et je prends mon vélo et ça me permet d'évacuer tout ça. Et quand je rentre, je suis nettement plus en forme.
On n'a pas parlé de l'ébut de l'histoire, en fait. C'est ta vocation. Ta vocation, parce qu'elle est née dans le Gers, pardi.
L'histoire, c'est qu'un jour j'étais invité, j'étais tout petit, mais j'ai vraiment cette sensation là c'est quand on voit quelqu'un, quand on parle à quelqu'un qui devient prêtre, qui a la vocation, l'appel, hein, c'est vraiment ça. Je suis allé voir un week-end à la campagne, j'avais été voir un de mes amis à la campagne, et pendant que j'étais en week-end, le médecin, son papa était médecin, il m'a amené faire la visite. Il m'a amené à faire la visite avec les malades. C'était un dimanche matin. Et c'est vrai que ce jour-là, mais vraiment, j'ai ressenti, mais comme si tout s'éclairait, là, que c'était au-dessus de moi un appel, quelqu'un qui crierait soit médecin, soit médecin. Et donc, je me suis dit, ce jour-là, je serai médecin. Mon père pensait que je serais sûrement plus prof de gym ou rugbyman que médecin. Il me disait, tu feras ce que tu voudras, mais à mon avis, ça va être dur. Et je n'avais qu'une seule envie, c'est d'être médecin. Et je ne saurais rien faire d'autre que ça. Je ne sais faire que médecine.
J'ai l'impression que c'était même plus précis que cela, Antoine. C'était médecin de famille, médecin de campagne. Alors, tu le dis à la ville, mais c'est un peu médecin de campagne.
Je rêvais d'être médecin de campagne, mais vraiment, c'est le hasard de la vie qui fait que je suis devenu médecin à Bordeaux. Mais j'ai essayé de travailler. J'aurais rêvé d'être médecin de campagne, d'avoir le contact avec les gens, de me promener à droite, à gauche, de dire bonjour aux gens, d'aller chez eux, de faire partie de leur famille, comme on voyait. Comme j'ai vu ce médecin de campagne qui est allé, qui prenait les poules en rentrant et qui avait... Je trouvais ça super et j'avais trouvé le contact de rentrer dans la maison. C'est d'ailleurs ce que dit Jean-François Mattei. Parce que je pense qu'il n'a pas fait le lien ou il n'a pas voulu faire le lien avec le docteur House quand il a vu le docteur Maison. Et dans la préface, qui dit c'est le médecin qui rentre de maison en maison. Et c'est ce qui m'a attiré. Je suis encore un des rares médecins à faire pas mal de visites alors que les gens ne font pas beaucoup. Les médecins, de moins en moins, font des visites pour des raisons pratiques, de circulation, d'autres choses. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc j'adore rentrer dans la maison, j'adore prendre le café avec mes patients, j'adore me lever tôt le matin et les voir. Ça me plaît vraiment beaucoup. C'est une vocation.
On connaît, on voit ta passion, Antoine. Pour autant, est-ce qu'à un moment donné, ou est-ce que parfois, tu as eu des regrets, tu t'es dit vraiment, je n'aurais pas dû choisir ce métier ?
Jamais. Jamais. Je mourrais au travail. J'aime ça. Je suis heureux tous les jours de le faire. Mais vraiment, vraiment, jamais. Je ne m'ai jamais pensé ça. Même quand la sécurité sociale m'embête, elle me contrôlait tout le temps.
Alors, quand on écrit un livre, évidemment, on laisse une trace. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? C'est écrire ou c'est être lu ?
Non, peut-être d'être lu. D'écrire, ça n'a pas été facile. Vraiment, pour moi, ça a été vraiment du plaisir. C'était un amusement. J'écrivais ça, je libérais mes émotions, je pleurais, tout ça. Le fait d'être lu, après, j'ai eu peur, parce qu'on a toujours peur de... Soit que ça soit pas bien fait, soit que ça soit mal jugé, soit ça... Voilà, mais j'ai plutôt d'être lu. Parce que j'avais peur que les gens ne comprennent pas tout ce que j'ai voulu dire. Ma légèreté par moment et ma gravité de l'autre côté. Je ne voulais pas tomber dans le pathos parce que la vie de médecin, il y a des choses tristes. Il ne fallait pas tomber dans le triste. Et j'avais peur de ça.
Est-ce qu'on peut dire déjà qu'il y aura une suite ?
Je vais partir en vacances au mois de juillet. J'ai dit que je vais commencer à y réfléchir.
Alors, tout n'est pas dans le livre, mais comme on est quelques-uns à te connaître un petit peu en dehors aussi... Tu as beaucoup parlé rugby parce que c'est ta passion, le rugby. Pourtant, tu as approché, je vais me permettre une parenthèse, mais ça pourrait être aussi dans le livre. Tu as côtoyé le monde du football, tu as été le médecin des Girondins à une époque. Et je voudrais que tu nous racontes un de tes déplacements, je crois que c'était en Italie, à Rome, quand tu es rentré sur le terrain, comme quoi tu n'étais pas fait pour le foot. Tu veux bien nous raconter ça, s'il te plaît ?
Il est allé sortir, ça c'est loin. C'est mon premier déplacement. Mon premier déplacement en tant que médecin Girondin, je remplace le docteur Montero. Et donc, je rentre, on me dit, donc voilà, il faut, tu remplaces, parce que M. Montero n'est pas là, c'est toi qui le remplaces. Donc, je rentre et on me donne l'uniforme des Girondins. J'étais aux anges, flatté comme il n'était pas possible, costume, tout. Et avec une chose qu'ils n'avaient pas prévue, c'est les chaussures. Donc, j'avais mes mocassins et on m'avait pas prévu de crampons pour rentrer sur le terrain. Première action, première minute, il y a Didier Deschamps qui joue à Bordeaux, qui se blesse. Et donc, l'arbitre appelle le médecin. Donc je me précipite pour courir, mais quand on est sur un terrain mouillé à Rome devant 80 000 personnes et que vous n'avez pas de crampons, j'ai fait un vol plané qui a été énorme avec un imperméable blanc.
Qui est passé à la télé.
Qui est passé à la télé en Italie, il a dû avoir le bêtisier chaque année. Et ensuite après j'ai fait le tour du terrain et je tournais, il y avait tous les Italiens qui me disaient des mots en italien que Franco pourrait me traduire mais que je ne connaissais pas. Et tout le monde était hilar, voilà. Donc à la mi-temps. À la mi-temps, c'était important. J'étais tellement vexé, j'ai dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un joueur qui pourrait me prêter des chaussures ? Je me suis aperçu que les footballeurs avaient des plus petits pieds que le rugbyman, parce qu'aucun ne dépassait du 42, et moi je fais du 45. Donc il y avait, à l'époque, c'était Didier Sénac ou Philippe Vercruis qui me dit, moi j'ai des chaussures en plus, je peux t'aider prêter. Donc ils m'ont prêté, mais du 42. Et pendant toute la deuxième mi-temps, j'avais du 45 dans du 42. Et je faisais la grimace, et ma mère qui était devant la télé, parce que je l'avais prévenue, elle était scotchée devant la télé, m'a dit, je sais pas, t'avais pas l'air bien quand même pendant le match. Tu faisais une tête, j'avais tellement mal aux pieds que voilà, c'était affreux.
Antoine n'est pas fait pour le foot, c'était pour le rugby, voilà. C'est sûr. Ce livre, évidemment, maintenant, il circule de main en main. Ça se passe pas mal, les ventes, je crois. Ça se passe bien. Bien. Quels sont les retours de tes lecteurs ?
Les gens m'envoient des messages de sympathie tous les jours. Tous les jours, j'ai des messages, des textos, et tout le monde dit qu'ils ont trouvé, ils me disent la même phrase. Les gens qui ont lu le livre me disent, on est passé du rire aux larmes et on la lit d'un coup, d'une suite, d'une traite. Et ça me plaît. Ça me plaît parce que c'est exactement ce que je voulais faire passer comme message. C'était vraiment que les gens puissent être émus pour le métier de médecin, mais aussi qu'on peut rire aussi, même les choses les plus tristes, on peut le faire en riant.
J'aimerais peut-être qu'on termine cette partie-là avec un point que j'ai lu dans ton livre qui, moi, m'a interpellé, c'est que le mensonge n'est jamais récompensé, notamment quand on est un étudiant en médecine.
Ah oui, mais vraiment, il ne m'épargne pas. Alors, un jour, donc, l'anecdote que j'ai décrit aussi, c'était je viens d'être reçu en première année de médecine. Et je joue avec le SBUC, j'ai dit bien le SBUC parce que c'était pas le Stade Bardelais ni l'UBB, c'était le SBUC. Je joue avec le SBUC du côté de Clermont-Ferrand. Et donc ensuite, je devais partir en vacances rejoindre ma famille qui était sur la Côte d'Azur. Et donc, je prends un train de nuit rapide. Et dans le train de nuit, c'était le train où il y avait des couchettes. Et dans la couchette, je me retrouve dans un compartiment avec une dame très sympathique d'un certain âge, jeune, enfin assez jeune quand même, et qui me...
Non, 35 ans.
Et là, elle me dit, ah bon, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, je suis étudiant en médecine, enfin je viens de passer l'internat. Au lieu de lui dire, je venais de passer la première année de médecine, un peu d'orgueil, un peu de joie d'être reçu, je lui dis, je viens d'être interne des hôpitaux. Non, c'est très bien. Moi, je suis infirmière au bloc opératoire à Bordeaux. Je lui dis, ça, c'est une coïncidence, c'est très bien. Je me pose des questions sur la réussite de l'internat. Je lui dis mon classement de la première année, non pas de l'internat. Et voilà, tout se passe bien. Je passe en vacances. Ça, c'était au mois d'août. On est à la rentrée rugbystique, c'était fait en août. Et 8 jours plus tard, j'arrive, premier stage de deuxième année, professeur Sénégas, chirurgien, orthopédique, très bien. Il m'avait opéré du genou, déjà malade, quelques temps avant. Il me dit, tu peux venir à une opération avec moi, si tu veux, Antoine, ça me ferait très plaisir. Toi qui as été opéré du genou, je vais te montrer l'opération du rachis cervical. Je suis ravi, donc je dis, je vais y aller, très bien. Je vais opératoire, c'est fabuleux pour moi. C'est le maître Sénégas, en plus ancien rugbyman, qui me comprend et tout. Donc il arrive, il a fait un coup de bistouri, je suis tombé dans les pommes, complètement. Effondré, au premier coup de bistouri, je suis sorti du bloc. Et là, quand j'étais par terre en train d'être réanimé, la personne qui me réanimait, qui me mettait des baffes, elle enlève son calot, elle me dit « Tu me reconnais pas ?» Je suis l'infirmière qui était, et toi qui étais interne, et en fait, tu étais en première année de médecine. Et là, je suis passé pour un gros menteur.
Donc les mensonges ne sont jamais récompensés.
Voilà, c'est ça.
Merci Antoine. Merci infiniment. Merci à vous.